Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'International, émission réalisée conjointement par TV5 Monde, RFI, avec le quotidien Le Monde. International qui revient aujourd'hui sur un événement majeur du XXe siècle. Il y a tout juste 50 ans, c'était le 5 juin 1967, une guerre allait opposer en quelques jours des armées arabes au jeune État d'Israël. C'est la guerre des six jours. Elle se traduisait par une victoire éclair de cet État hébreu. Dans la foulée, ces images pour l'histoire, le 10 juin 67, annexion de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau de Golan. Situation figée depuis 50 ans, en dépit d'années de pourparlers, de prix Nobel de l'année, de différents assassinats et de guerres aussi. International ouvre le dossier, le Proche-Orient peut-il vivre en paix aujourd'hui avec deux États qui vivraient côte à côte, l'État d'Israël et un État palestinien? C'est donc la question que nous allons poser. Notre invité, Ofer Bronstein, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-israélien, vous présidez le Forum mondial pour la paix au Proche-Orient. Beaucoup de questions vous posez avec Sophie Malibo de RFI et Christophe Ayat du Monde. Nous allons revenir sur cette actualité, sur les développements récents. Mais tout d'abord, nous l'avons entendu dans les différents points d'information, cet attentat, le troisième attentat à Londres, troisième attentat en quelques semaines, un nombre de victimes, 7 morts au moins, on parle de 28 blessés, nous y reviendrons au courant de cette édition. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, comme on le dit en Israël, entre cet attentat et les attentats qui sont perpétrés de temps à autre en Israël?
Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma tristesse et ma pensée vers les londoniennes et les londoniens, bien entendu, et les familles des victimes. C'est terrible, c'est triste. C'est le deuxième en l'espace de quelques semaines. Non, je ne pense pas qu'on puisse faire un parallèle entre les attentats que l'on connaît ces derniers mois, ces dernières années en Israël, qui sont des attentats individuels, pas revendiqués, au couteau, parfois voiture bélier, mais ils sont pas comparables. Ceux-là sont toujours revendiqués par Daesh, comme ça a été le cas pour la France et pour d'autres capitales européennes et mondiales. Ceux qui ont lieu en Israël ces dernières années ne sont pas revendiqués, ni par les Palestiniens, ni bien entendu par l'État islamique. Ce sont des attentats en général individuels, pas organisés. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux profils d'attentats totalement différents.
J'ai oublié de dire en vous présentant que vous avez été conseiller de l'ancien Premier ministre assassiné Yitzhak Rabin et que vous êtes l'un des seuls Israéliens, vous êtes deux je crois, à disposer d'un passeport palestinien, donc en engagement pour cette cause. Mm-hmm. Pour commencer ces questions, le Forum international pour la paix, donc le mouvement de la paix, où est-il passé en Israël? On a l'impression qu'il a disparu, il est inaudible.
Non, je pense qu'il y a un paradoxe entre la situation de la société israélienne aujourd'hui et ceux qui sont censés représenter le camp de la paix. Le camp de la paix existe. Les derniers sondages en Israël montrent que la majorité des Israéliens, même sous un gouvernement de droite et d'extrême droite, pensent que la solution des deux États est la meilleure. Je pense que le camp de la paix n'est pas bien représenté. C'est la gauche israélienne qui en avait fait son drapeau, qui est laminée, qui est affaiblie, qui ne le représente pas. De plus est parce que la solution des deux États a été adoptée par la droite israélienne. Donc le drapeau de la paix est un drapeau qui est assez mal porté par les représentants ou ceux qui sont censés représenter le camp de la paix pour des raisons sociales, économiques, culturelles à l'intérieur de la société israélienne. Mais je pense que la majorité des Israéliens veulent aller de l'avant comme la majorité des Palestiniens. Ils sont mal représentés.
Je voudrais revenir, Ofer Bronstein, si vous le permettez, un petit peu sur les attentats qui viennent de se dérouler à Londres et sur le mode opératoire, les attaques à l'arme blanche, la voiture bélier, parce que c'est tout de même ce qu'on a pu voir à un certain nombre de reprises en Israël. J'ai aperçu sur les réseaux sociaux des réactions disant « nous sommes habitués à cela ». De la part d'Israéliens. Vous qui vivez la moitié de votre temps là-bas, comment est-ce que vous estimez qu'il faut réagir à cela ?
Encore une fois, c'est les motivations qui sont totalement différentes. Il est évident qu'un Israélien ou une Israélienne qui se balade dans un marché et qui se fait agresser au couteau par quelqu'un qui veut commettre un attentat, c'est traumatique, c'est terrible. Et c'est de l'huile sur le feu pour ceux qui, justement, ne veulent pas qu'il y ait un dialogue serein et constructif entre Israéliens et Palestiniens. C'est utilisé, c'est instrumentalisé souvent. Mais la différence capitale, c'est que, un, les les attentats que l'on connaît ces dernières années en Israël, qui sont terribles, et que bien entendu, je pense que c'était une terrible chose de faire, ça ne sert pas à la cause palestinienne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'autorité palestinienne actuelle et le mouvement politique palestinien principal, qui est le Fatah, a décidé ces dernières années d'adopter la non-violence comme moyen de résistance, et s'il n'y a plus les attentats terribles qu'Israël a connus dans les années 90, où ce sont des bus qui explosaient, où ce sont des dizaines de victimes chaque semaine dans les grandes villes israéliennes, aujourd'hui il y a une coopération sécuritaire importante entre Israéliens et Palestiniens, et si on n'est pas témoin de ce genre d'attentat que l'on a connu dans les années 90, c'est justement grâce à cette coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est le paradoxe: d'un côté il n'y a pas de dialogue, d'un côté il n'y a pas de négociation, d'un côté on ne va pas de l'avant, et d'un autre côté il y a, et ça les autorités militaires et sécuritaires israéliennes et palestiniennes travaillent régulièrement conjointement pour justement empêcher qu'il y ait des attentats.
Mais Ofer Bronstein, s'il n'y a plus d'attentats, est-ce que c'est pas parce que les deux sociétés vivent séparées? Il n'y a quasiment plus de contact d'aller-retour à part à Jérusalem.
Je pense.
Le mur, la barrière de séparation a vraiment.
Je crois pas que ce soit la barrière de séparation qui empêche les attentats et ceux qui veulent les commettre de pouvoir les commettre. Je pense que c'est surtout la coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens, quotidienne, sérieuse, ferme, importante, qui empêche ce genre d'attentat d'avoir lieu en Israël. Votre question, en fait, elle a deux niveaux. D'un côté, vous avez raison, c'est dramatique et tragique, à mon avis, pour la société israélienne, pour la société palestinienne, pour le camp de la paix que vous avez mentionné. Depuis 2001, il est interdit par la loi aux Israéliens de pouvoir rentrer dans les territoires palestiniens, ce qui empêche des liens réguliers, accrus, comme il y en avait à l'époque, entre Israéliens et Palestiniens, dans tous les domaines, économiques, culturels, éducatifs, société civile. Et ça, c'est tragique et dramatique, parce qu'il y a une nouvelle génération d'Israéliens et de Palestiniens qui ne se rencontrent pas, qui ne se connaissent pas, qui n'échangent pas, qui ne comprennent pas les aspirations, les craintes, les frayeurs, les espoirs des uns et des autres. Et ça, c'est négatif, contre-productif. On a perdu une génération d'Israéliens et de Palestiniens depuis l'assassinat de Rabin. Par contre, je ne crois pas que ni le mur de séparation quand il a été initié par Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, c'était plutôt la volonté de créer une frontière entre Israéliens et Palestiniens dans le cas d'un futur État palestinien. C'est pas elle. Venez avec moi demain, on va se rendre en voiture à Ramallah, à partir de Jérusalem, vous allez pouvoir qu'on va pas être arrêté, on va pas être préoccupé. S'il y avait une détermination de la part de Palestiniens et des yeux fermés de la part des autorités palestiniennes et de la sécurité palestinienne et israélienne, il y aurait certainement eu plus d'attentats. Mais il y a une volonté israélienne et palestinienne et des actions claires et fermes de la part des deux côtés pour empêcher ce genre de situation.
Est-ce que vous diriez, Ofer Bronstein, qu'on se dirige vers une société d'apartheid si rien n'évolue?
Si rien n'évolue, ce que préconise l'extrême droite israélienne, c'est absolument de l'apartheid, puisqu'il préconise l'annexion de la zone C, c'est-à-dire de la majorité des territoires palestiniens, sans donner des droits civiques aux Palestiniens qui vivraient. Aujourd'hui, à Jérusalem, on vit dans une quasi... j'aime pas la terminologie apartheid, parce que on n'est pas en Afrique du Sud, mais Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, n'est pas monsieur de Klerk, et monsieur Abu Mazen et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, n'est pas Mandela. Mais aujourd'hui à Jérusalem, depuis qu'elle a été annexée par Israël, 28 villages palestiniens qui font partie de la municipalité de Jérusalem ont la carte d'identité israélienne, mais non pas la nationalité israélienne, peuvent voter, ce qu'ils n'exercent pas, mais on en parlera, voter pour la municipalité à Jérusalem, mais ne peuvent pas voter pour le Parlement israélien. Donc c'est des citoyens de seconde zone. Un début d'apartheid.
Vous disiez, Ofer Bronstein, les Israéliens veulent la paix. Ce qui ne marche pas, c'est la traduction politique de cette volonté. Mais est-ce que les Israéliens... veulent payer le prix de la paix, c'est-à-dire fixer des limites à leur État ou se confronter à une partie de leur société que sont les colons, qui eux ne veulent pas fixer les mêmes limites, disons.
ben vous touchez au cœur du problème. Malheureusement, la société israélienne est prise en otage par la minorité d'extrême droite qui aujourd'hui fait partie du gouvernement israélien. Malheureusement, les minorités, les extrémistes de part et d'autre dictent l'ordre du jour aussi bien à l'autorité palestinienne qu'au gouvernement israélien. Vous savez, il a été dit qu'Israël n'a pas de politique étrangère, qu'elle n'a qu'une politique intérieure. Si Netanyahou ne va pas de l'avant, s'il n'y a pas eu de leaders politiques qui ont le courage d'aller de l'avant, de briser les tabous, d'aller même à l'encontre parfois des opinions publiques, c'est justement par crainte de perdre le pouvoir. Aujourd'hui, l'artiste Netanyahou, qui est un excellent politicien, est un piètre homme d'État. Il fait tout ce qui est nécessaire pour rester au pouvoir, et je crois que c'est son objectif principal, que d'amener les Israéliens et les Palestiniens vers un havre de paix. Et ça, je le déplore et je le regrette. Il manque de la détermination et un courage politique, surtout de la part des Israéliens aujourd'hui, pour amener le peuple israélien vers un havre de paix.
Benjamin Netanyahou, lorsqu'il dit je suis pour la solution des deux États, ou vous pensez qu'il le dit pour pouvoir, pendant ce temps, avancer ses pions, annexer d'une certaine manière des territoires?
Je pense que d'un côté il le dit parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pas uniquement pour des raisons pour faire plaisir à la communauté internationale qu'il le fait. Il sait pertinemment bien qu'il n'y a pas d'autre solution qu'à la solution des deux États. D'un autre côté, il est pris en otage et il se laisse prendre en otage.
À dire oui.
Par ces extrémistes et par l'extrême droite qui fait partie de sa coalition pour ne pas perdre le pouvoir. Et c'est là où il y a un manque de leadership. C'est là où il y a un manque de courage politique. Yitzhak Rabin, quand il a décidé d'aller de l'avant, alors même après les accords dits d'Oslo qui ont été signés le 13 septembre 93 à Washington, la poignée de main historique, la reconnaissance mutuelle historique des Israéliens et des Palestiniens entre Yitzhak Rabin et le président Yasser Arafat, on a vécu une période d'attentats presque quotidiens à Tel Aviv. Très meurtriers, c'est des bus qui explosaient. C'est des hôtels, des restaurants, des boîtes de nuit qui étaient la cible de ces attentats. Et pourtant, Yitzhak Rabin avait dit, d'une main je continuerai à faire la paix, et de l'autre je combattrai le terrorisme. Aujourd'hui, c'est d'un leadership de ce courage, de ce calibre, qu'il manque aux Israéliens.
Et vous pensez que tant que la personnalité de Netanyahou elle-même fait obstacle à la paix?
Je sais pas, j'arrive pas tellement bien à saisir la psychologie du personnage Netanyahou. Et ce que je sais, il faut le rappeler, Netanyahou a rencontré Yasser Arafat. Netanyahou a signé deux accords avec Yasser Arafat. Les accords de White River en 1998 et les accords de Hebron. Netanyahou a été le seul premier ministre israélien à ce jour qui a signé des accords qui préconisaient le retrait de colons de Cisjordanie, et pas de n'importe quelle ville en Cisjordanie, de la ville de Hebron. Des accords qu'il n'a pas respectés. Les accords de White River, qui redonnaient un élan aux accords signés à Oslo en 1993, signés par Netanyahou lui-même, avec Yasser Arafat, n'ont pas été respectés. L'engagement que Netanyahou a donné à John Kerry, lors du premier mandat de Barack Obama, pour reprendre les négociations, c'est-à-dire il devait choisir entre arrêter les colonies ou libérer des prisonniers. Il a fait le choix de la libération des prisonniers. Ça devait s'effectuer sur trois étapes. Il ne l'a pas respecté. Il en a respecté deux. Il n'en a pas respecté la troisième. Et c'est pour ça que depuis, les négociations n'ont pas repris entre Israéliens et Palestiniens. Donc il signe des accords et il ne les respecte pas.
On revient en 1995, donc deux ans après ces fameux accords, la poignée de main, donc en septembre 1993, et c'est la fin de l'histoire. On a l'impression que les accords vont se faire. Il y a l'assassinat de Rabin, dont j'ai dit que vous étiez l'un de ses conseillers. Comment se fait-il que Rabin n'ait pas d'héritier politique?
Vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire, un héritage politique.
Quelqu'un qui a repris le flambeau.
Je pense qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, il y a d'excellents politiciens, et Netanyahou est peut-être le meilleur d'entre eux, mais il n'y a plus d'hommes d'État. Il y a des hommes politiques qui ouvrent le journal le matin, qui regardent la manchette, qui regardent les titres, et qui essaient de faire plaisir à leur coalition et à une certaine une partie de l'opinion publique, surtout à son électorat. Il n'y a pas d'homme d'État qui dit, même si l'opinion publique est va enfin contre moi. Rabin l'a vécu. Il savait que l'opinion publique était réticente. Il vivait des attentats tous les jours.
Extrêmement violent.
Et une compagne d'une violence extrême, appelant à son assassinat. Rabin n'a pas été tué que par un seul homme. Il a été tué par une atmosphère, par une ambiance qui a été créée.
Comparé à un nazi, etc.
Il a été tué par un terroriste juif, mais qui a grandi, qui a été véhiculé par une atmosphère, par une ambiance délétoire qui existait dans la société israélienne. Et pourtant, il a décidé d'aller de l'avant. Mais ce qui manque aujourd'hui en Israël.
Justement, Ofer Bronstein, vous n'avez pas l'impression que ces gens-là ont gagné? C'est-à-dire qu'ils ont fait peur à l'ensemble des hommes politiques israéliens, notamment par la menace d'un assassinat.
Oui, je regrette, mais le constat que vous faites est le bon. Moi, je pense qu'à ce jour, l'assassin de Rabin a gagné. L'assassin de Rabin qui voulait arrêter justement ce processus de paix, qui voulait arrêter ce processus de réconciliation, de coopération entre Israéliens et Palestiniens a réussi. Et nous, le camp de la paix, on n'a pas été assez vigilants, on n'a pas été assez forts, on n'a pas été assez virulents pour protéger les acquis du gouvernement Rabin, pour protéger les accords de paix, pour aller de l'avant. Je pense qu'on doit revoir nos actions, faire notre mea culpa, mais on n'a pas su être assez virulent. Je pense que face à l'extrême droite, face qui est malheureusement au gouvernement aujourd'hui en Israël, il faudrait un camp de la paix qui soit un peu plus virulent. L'opinion publique en général, le public israélien en général veut la paix. Encore une fois, les derniers sondages disent que la majorité veut la solution des deux États. Mais c'est le camp de la paix. C'est les leaders de ce camp de la paix qui ont failli, et j'en fais partie. On n'est pas assez virulent, on n'est pas assez présent dans la société israélienne, on n'est peut-être pas assez présent dans les préoccupations des Israéliens, qui ne sont pas uniquement par rapport à la paix, dans le domaine social, dans le domaine économique. Là, je pense que les leaders du camp de la paix, les partis politiques qui sont censés le représenter, qui doivent se réinventer aujourd'hui, ne sont pas assez présents.
Très concrètement, les colonies se sont tellement développées depuis cette époque-là. Comment est-ce que ça pourrait évoluer? Comment est-ce que concrètement, est-ce que ce phénomène est réversible au point où il en est plus de 600 000 colons israéliens?
Tout d'abord, il est réversible. Vous savez, on sait très bien. Il n'y a plus rien à inventer. Il n'y a pas un nouveau plan de paix qui peut aujourd'hui changer la donne. Il n'y a plus rien à inventer aujourd'hui pour régler le conflit israélo-palestinien. Ce qu'il manque, c'est encore une fois une détermination politique, un courage politique, un camp de la paix ou des représentants de ce camp de la paix qui soient un peu plus vindicatifs, virulents, présents dans la société israélienne. Mais il n'y a rien à inventer. On sait que la solution des deux États passera à un moment donné par un échange de territoire. 90% des colons se trouvent sur 7% du territoire. Donc ce qu'on a préconisé, c'est qu'il y ait un échange de territoire. 7% du territoire où vivent la majorité des colons restera sous autorité israélienne. Et en échange, les Palestiniens recevront 7% de territoire, soit pour agrandir la Cisjordanie dans le nord de la Cisjordanie, soit pour agrandir la bande de Gaza, qui est quand même le plus grand camp de réfugiés au monde sur 40 kilomètres carrés, et aussi pour permettre un passage, ce que tous les accords préconisent, un passage entre la bande Gaza et la Cisjordanie, le sud de la Cisjordanie, ce qui ferait à peu près 1% de territoire aussi.
Mais ça, Ofer Bronstein, ça marchait lorsque il croyait le principal facilitateur, arbitre, qui étaient les Américains. Vous disiez Netanyahou a signé, bah oui, c'était sous la contrainte de Clinton. Aujourd'hui, Trump dit un État, deux États, peu m'importe, ce que vous voulez. Est-ce que ça, c'est pas un changement majeur?
Est-ce que la visite de la semaine dernière, il y a 10 jours, du président américain va changer la donne? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit sur place? Pas grand-chose. Il a exprimé la volonté de voir la paix exister.
Mais justement, il n'a pas parlé des deux États.
Mais il a fait des choses. Il y a quand même certains actes qu'il a eus sur place.
Il est allé seul au mur des lamentations.
Voilà, il est allé seul au mur des lamentations, sans représentation israélienne. Sur les cartes des Américains avant son séjour, Jérusalem était divisée. Donc il ne reconnaissait pas Jérusalem-Est. Il a repoussé et la promesse électorale qu'il a eue de faire passer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il ne faut pas oublier le contexte aussi. Il revenait de Riyad, où il a rencontré pas seulement les Saoudiens, mais 50 chefs d'État arabes et musulmans, et où il a signé des contrats de presque 400 milliards de dollars. Et je voudrais parler aussi des chiffres.
Bronstein, je vais vous interrompre. On fait sur les antennes de RFI et de TV5 Monde une pause, et on se retrouve avec beaucoup d'autres questions dans exactement 2 minutes. international qui reçoit aujourd'hui Ofer Bronstein, la présidente du Forum international pour la paix. Nous avons choisi ce thème 50 ans tout juste après la guerre des six jours qui a modifié cette carte du Proche-Orient. Nous évoquions avant la pause, Ofer Bronstein, les efforts diplomatiques, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, des différents locataires de la Maison-Blanche, que ce soit Clinton, Bush, Obama, aucun d'entre eux n'a réussi. Est-ce que ce président Trump, un peu imprévisible, peut forcer, modifier la donne, ou est-ce que America First, il va plutôt s'occuper des affaires intérieures de l'Amérique?
Bon, tout d'abord, à mon avis, le président actuel américain, c'est surtout un homme d'affaires. Ce qu'il est allé faire au Moyen-Orient, c'est surtout faire du business. Maintenant, permettez-moi de rectifier quand même quelque chose. Les présidents américains avant Trump ont quand même fait des choses très positives dans la région. La visite de Donald Trump, républicain...
Je n'ai pas dit qu'il n'avait rien fait, mais ça n'a pas débouché sur une paix durable.
Certains ont débouché sur des avancées quand même très importantes. Et la visite de Donald Trump me rappelle celle de Richard Nixon en 74.
Mauvais présage.
Pour lui, oui. Le premier président américain, d'ailleurs, c'est la première fois qu'un président américain visitait Israël, c'était en 74, et c'était Richard Nixon, avec son secrétaire d'État, le fameux Henry Kissinger. Il rentre aux États-Unis, et on sait ce qui lui arrive, Watergate l'attend. Je ne sais pas ce qui attend exactement le président Trump, je pense que c'est les mêmes choses qu'il attend, moi je l'espère en tout cas, mais n'oublions pas que la visite de Nixon à l'époque ouvre la porte à des accords historiques de paix entre Israël et l'Égypte, les accords de Camp David, sous la tutelle du président Jimmy Carter, qui ont quand même révolutionné la région. Le fait qu'il y ait une paix stable, durable, elle n'est pas chaude, mais elle existe, elle est ferme, elle est importante, elle est conséquente entre Israël et le plus grand pays arabe de la région, est très important. Ensuite, sous la tutelle de Clinton, après les accords dits d'Oslo signés à Washington en 93, entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, il y a eu des accords de paix historiques avec l'aide des Américains, entre Israéliens et Jordaniens. Donc le deuxième grand État de la région est aujourd'hui en paix avec Israël. Les Israéliens parlent de la menace tout le temps. La droite et l'extrême droite israélienne injectent de la peur et du poison de peur dans le cœur de la société israélienne quotidiennement, à outrance. Israël aujourd'hui n'a pas de menaces extérieures et existentielles. Elles n'existent pas. Avec la Jordanie, il y a des accords de paix. Avec l'Égypte, il y a des accords de paix. Avec les Palestiniens, il n'y a pas d'accord de paix permanent, mais il y a eu des avancées qui ont été faites. Il y a une coopération sécuritaire. Il y a une volonté de la part des deux sociétés d'aller de l'avant. La Syrie n'existe pas. Elle ne représente pas une menace pour Israël. Au Liban, c'est le chaos. Quant à l'Iran, je suis ravi, et j'espère qu'il continuera dans sa politique de réforme, de voir quand même le réformateur Rouhani être réélu à la tête de la République islamique iranienne il y a à peu près 2 semaines. Le monde arabe et musulman a réexprimé depuis l'initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth en 2001. Il a réexprimé encore une fois auprès des Français face à l'initiative de paix française, on en reparlera, qui a fait pchit, mais ça vaut la peine de s'y adresser. Il a exprimé, les Arabes et les pays arabes qui ont rencontré Donald Trump à Riyad ont exprimé leur volonté de reconnaître l'État d'Israël en échange d'une reconnaissance d'Israël à un État palestinien.
Ofer Bronstein, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ce lien très fort aussi qu'il y a entre Donald Trump et le maréchal Al-Sisi en Égypte, et sur la capacité des Égyptiens de peser peut-être sur le Hamas? Et on a vu que le Hamas prenait ses distances récemment vis-à-vis des frères musulmans, par exemple. Est-ce que ça peut faire bouger la donne?
Moi, je pense que Donald Trump, aujourd'hui, sa politique à lui, c'est de dire les États-Unis n'ont pas d'amis, les États-Unis ont que des intérêts. Je vais vendre des armes à outrance à l'Arabie Saoudite. 350 milliards de dollars d'accords de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Le budget annuel de l'autorité palestinienne est de 4 milliards et demi de dollars. De toute l'autorité palestinienne. Et là, on vend pour 350 milliards de dollars. Vous savez si...
J'en ai fait d'annonce, déjà.
Un trillion, 1 000 milliards de dollars ont été vendus en armes aux pays du Moyen-Orient ces 10 dernières années. 1 000 milliards de dollars. Le budget de l'autorité palestinienne est de 4 milliards. Vous vous rendez compte, si une partie de cet argent avait été investi dans le bien-être des peuples de la région, dans l'éducation, dans la culture, dans le logement, dans la santé, le Moyen-Orient serait un paradis. On est en train de pousser les pays de la région à consommer des armes à outrance, des armes qui, en fin de compte, ne sont pas, quand il y a besoin, ne sont pas dirigées contre un pays qui les agresse, mais contre leur propre population. Daesh, aujourd'hui, utilise des armes américaines pour commettre les actes terribles qu'ils sont en train de commettre. La guerre en Irak, et quand j'ai parlé de $1 trillion d'armement qui ont été vendus aux pays du Moyen-Orient, je ne parle même pas de la guerre d'Irak. La guerre d'Irak a coûté $4 trillions aux contribuables internationaux et américains. Je parlerai aussi, je voudrais donner des chiffres par rapport à la contribution, parce que l'autorité palestinienne vit aussi grâce à l'infusion, aux perfusions que lui donne la communauté internationale.
Et l'Europe notamment.
Et l'Europe notamment, qui est le plus grand contre... L'Europe n'est pas seulement le plus grand, elle est le principal contributeur économique d'Israël. C'est le plus grand marché pour les Israéliens. Les accords de libre-échange entre l'Union européenne et Israël sont des accords prioritaires. Donc c'est le plus grand marché pour Israël.
Les appels aussi, notamment au boycott sur certains produits israéliens. Comment est-ce que vous les vivez? Comment est-ce que vous les ressentez?
Je suis contre le boycott en général. La loi française est très claire par rapport à ça. Mais permettez-moi de revenir aux chiffres. Le contribuable européen, pas seulement a ouvert ses portes aux marchandises israéliennes, et j'en suis ravi, il a demandé à ce que, et il a raison, Israël n'a pas reconnu dans 90% des colonies en territoire occupé palestinien après 67 ne sont pas reconnues par Israël comme étant des territoires israéliens. Donc Israël ne les reconnaît pas comme faisant partie d'Israël. Les deux seuls territoires qu'Israël a annexés et qui sont devenus territoires israéliens par la loi israélienne sont 28 villages de Jérusalem, donc la Jérusalem unifiée, ce qu'on appelle, elle ne l'est pas du tout, et le plateau du Golan. Mais tous les territoires de la Cisjordanie occupés après la guerre de 67 n'ont pas été reconnus comme territoire israélien par Israël. Donc il n'y a pas de raison que la Commission européenne ne demande pas à Israël de faire la part des choses entre des produits qui sont qui viennent des territoires occupés et des produits israéliens. La Commission européenne, la France, les pays européens sont très clairs là-dessus. Je suis contre le boycott d'Israël comme tel, mais je peux comprendre tout à fait qu'un consommateur français, anglais, allemand ou espagnol veuille faire la part des choses entre un produit qui vient d'Israël et un produit qui vient des colonies et des territoires occupés.
Jusqu'à présent, les Européens étaient assez divisés sur Israël, entre les Allemands plutôt pro-israéliens, les Français plus pro-palestiniens. Est-ce que vous observez une sorte de convergence et de moyens de pression? Est-ce que l'Europe peut commencer à avoir sa diplomatie sur ce conflit, sachant que par exemple les pays comme l'Allemagne, qui était un peu très proche du gouvernement israélien, sont en train de s'en éloigner.
Vous touchez, je pense, un point qui est cardinal. C'est la relation entre l'Europe et la région. Tout d'abord, l'Europe a une responsabilité historique par rapport à ce qui se passe dans la région. Le partage de la Palestine,
c'est un problème européen, c'est les Britanniques.
Le partage du Moyen-Orient, c'est les Britanniques et les Français. Donc l'Europe a une responsabilité historique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui torture aujourd'hui, qui fracture aujourd'hui encore le Moyen-Orient. On paye encore le prix de la politique colonialiste de l'Europe à la fin du siècle dernier, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc l'Europe a une responsabilité, l'Europe a aussi un rôle à jouer. Elle est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne. À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi moi, contribuable français, contribuable européen, je dois être le sous-traitant de l'occupation israélienne. Si M. Netanyahou, si le gouvernement actuel israélien ne veulent pas aller de l'avant vers un accord permanent et la création d'un État palestinien que les Palestiniens méritent, rendre la dignité et la liberté aux Palestiniens, ce qui aussi garantira vraiment la sécurité d'Israël. Parce qu'en créant l'État palestinien, en acceptant la création d'un État palestinien, c'est la reconnaissance de 56 pays arabes et musulmans de l'État d'Israël. Cette reconnaissance, c'est elle qui garantira la sécurité d'Israël. Et c'est pas encore une fois de la consommation à outrance d'armes.
Les Européens, ils ont quels leviers? Ils ont des leviers économiques?
Justement, bien sûr. Ils ont des leviers économiques et ils devraient se donner les moyens d'avoir des leviers politiques. Il n'est pas normal que 28 pays européens, plus une ambassade européenne, s'en fait 29. Il y a aujourd'hui 29 représentations européennes à Tel Aviv, les mêmes à Jérusalem, pour représenter les intérêts des Européens auprès de l'autorité palestinienne. Chaque représentation, ça coûte des millions d'euros aux contribuables européens. En plus, l'Europe a aussi un envoyé spécial pour le processus de paix. Quelqu'un d'entre vous connaît son nom? Est-ce que vous, journaliste de la région, vous connaissez le nom du représentant spécial de l'Union Européenne pour le processus de paix?
On sèche, là.
Vous séchez parce que personne ne le connaît. Il coûte très cher, mais personne ne le connaît. Donc, si on ne le connaît pas, ça veut dire que le résultat de son action est presque zéro.
C'est pour quelle raison?
Parce que l'Europe ne se donne pas les moyens de ses convictions. Elle ne peut pas être uniquement un bailleur de fonds, elle ne peut pas être uniquement un marché pour Israël, elle ne peut pas être le partenaire privilégié de l'économie et de l'État israélien, le contributeur à l'autorité palestinienne, sans se donner des leviers politiques. Les leviers politiques, vous avez raison, c'est le couple, c'est aujourd'hui plus que jamais le couple franco-allemand. Et aujourd'hui, il y a une crise entre l'Allemagne et Israël. Vraiment, jamais il y a eu autant de friction entre le gouvernement israélien actuel et la chancelière Merkel et son ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas voulu prendre l'appel de Netanyahou lors de cette dernière visite, qui a décidé qu'il voulait rencontrer des ONG opposées à l'occupation israélienne, au lieu de rencontrer le Premier ministre israélien. Donc, dans cette brèche-là, entre Allemands et Israéliens, je crois que le couple franco-allemand a un rôle à jouer. Il n'est pas normal que la politique étrangère de la Pologne et la politique étrangère de l'Espagne soient tellement différentes. Il faut qu'il y ait un minimum.
Tant qu'on y est, dites-nous le nom de ce représentant, comme ça on aura aussi appris quelque chose.
Monsieur Gentilini.
Monsieur
Gentilini.
Eh bien, vous voyez, comme maintenant ça, il sort d'un anonymat relatif. On parle beaucoup de la politique d'Israël. Je voudrais qu'on dise un mot de ce qui se passe dans la famille palestinienne. Elle est divisée. Il n'y a pas d'élection depuis pratiquement une décennie. Et elle a plutôt une image de corruption.
Vous savez, malheureusement, et on en parle, c'est d'actualité.
En tout cas, d'une gouvernance approximative.
On parle aujourd'hui de la moralisation de la politique en France. Vous savez, en Israël, il y a un Premier ministre qui est en prison, l'ex-Premier ministre qui est en prison, un président en exercice qui est allé en prison. Le Premier ministre Netanyahou est trois fois mis en examen pour des histoires de corruption. Le ministre de l'Intérieur israélien vient d'être mis en examen la semaine dernière, le même qui avait fait de la prison déjà pour les mêmes faits il y a quelques années. Donc la corruption...
On ne va pas faire le casier judiciaire, mais au moins sur l'absence d'élection.
Je le déplore. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la corruption dans l'autorité palestinienne. Je ne le nie pas. Mais leur mettre uniquement... dire qu'ils gèrent quand même dans des situations très difficiles, sans avoir le droit de passage libre.
L'absence d'élection.
Elle est dommageable pour les Palestiniens. Elle est due au fait que le Hamas, il y a eu des élections, le Hamas les avait gagnées il y a 10 ans. Il y a eu un gouvernement d'union nationale entre le Hamas et le Fatah et l'OLP. Ça n'a pas tenu le coup. Le Hamas a pris le pouvoir par la violence à Gaza. Il est considéré comme une organisation terroriste par la communauté internationale. Il faut que les Palestiniens trouvent un moyen de se réunir, de se retrouver et d'aller vers des élections, bien entendu.
Les pays arabes n'y peuvent rien, ne peuvent pas aider à faire que ces deux-là se réconcilient.
Est-ce qu'ils sont encore solidaires des Palestiniens?
Vous avez raison, vous touchez à quelque chose. Vous savez, hier, le Qatar, qui est un des pays qui finance et qui soutient le plus le Hamas, puisqu'une partie des leaders du Hamas se trouve à Doha, au Qatar, le Qatar a annoncé hier qu'il demandait à certains représentants du Hamas de quitter le territoire. Donc c'est intéressant. L'Iran a presque cessé sa contribution au Hamas. Le général Sisi en Égypte, dont les ennemis jurés sont les frères musulmans, le Hamas c'est une émanation des frères musulmans, a déclaré la guerre au Hamas. La frontière égypto-palestinienne de Gaza est fermée. Celle d'Israël est ouverte au compte-gouttes, mais celle avec l'Égypte est totalement fermée. Donc il y a une guerre sérieuse du gouvernement égyptien contre les frères musulmans et contre le Hamas. Le Hamas est appauvri, le Hamas est affaibli. Il faut utiliser cet affaiblissement. Et il y a un ultimatum du président de l'autorité palestinienne envers le Hamas d'il y a 2 semaines, en leur disant, j'arrête de payer les factures d'eau, j'arrête de payer les factures d'électricité, et j'arrête de payer 40 000 salaires à Gaza. Si vous vous remettez pas à la table sérieusement pour créer un gouvernement d'union nationale et pour appeler à de nouvelles élections. Et si vous n'arrêtez pas à préconiser la destruction de l'État d'Israël. Il y a une déclaration, vous l'avez signalé tout à l'heure, du Hamas il y a quelques semaines, où pour la première fois, implicitement, il reconnaît l'État d'Israël en disant il reconnaît la solution des deux États basée sur les frontières de 67. C'est un bon début. Il met un peu d'eau dans son vin. On va dans la bonne direction. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est dans l'intérêt des Palestiniens d'avoir une unité nationale pour pouvoir justement être légitime quand le moment de signer des accords de paix permanents viendra.
Il y a une difficulté évidemment pour les interlocuteurs côté palestinien. Il y a quelques semaines, il y a eu une grève de la faim de plusieurs centaines de prisonniers politiques. Est-ce que parmi eux, il pourrait y avoir un interlocuteur? Est-ce que ça discute? Je pense notamment à Barzouki. Est-ce qu'il peut y avoir un dialogue de ce côté-là?
Tout d'abord, il existe un dialogue, et on l'a vu, puisqu'ils sont arrivés à un accord.
Ils n'ont pas obtenu grand-chose.
Ils n'ont pas obtenu grand-chose.
Une visite de la Croix-Rouge en plus.
Ils ont arrêté la grève de la faim. Il y a un dialogue permanent entre les autorités, directes et indirectes, entre les autorités israéliennes et Marwan Barghouti, qui est un leader emblématique des Palestiniens.
L'interlocuteur d'Israël.
Je suis persuadé que Marwan Barghouti a un rôle à jouer et qu'il aura un rôle à jouer le jour où vraiment on sera serein et on ira de l'avant dans un processus de paix cohérent pour aboutir à un accord permanent. Marwan Barghouti est un leader incontesté de la part des Palestiniens. Il a un rôle à jouer, j'espère qu'il le jouera. Ce n'est pas le seul, mais c'est un leader très important et j'espère qu'un jour les Israéliens comprendront que pas seulement Marwan Barghouti est un ami personnel, je le connais personnellement, pas seulement Marwan Barghouti a un rôle à jouer, il est apprécié et respecté par les Palestiniens, mais je pense
c'est
que
c'est un terroriste d'Israël.
C'est un ex-terroriste. On ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ex-ennemis. Vous savez le paradoxe, on parlait du Hamas tout à l'heure. Le paradoxe, c'est qu'Israël ne négocie pas depuis 4 ans avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, mais elle négocie avec le Hamas. Des marchandises rentrent régulièrement, quotidiennement, d'Israël vers Gaza. Quand qu'il s'agissait de libérer le soldat israélien Gilad Shalit, c'est avec le Hamas qu'Israël a négocié un échange de prisonniers. 1073 prisonniers palestiniens ont été échangés contre la libération de ce malheureux soldat. C'est avec le Hamas qu'Israël a négocié. Donc il est dans l'intérêt fourbe et dangereux de la part de certains éléments du gouvernement israélien de maintenir le Hamas au pouvoir à Gaza pour justement mettre l'accent sur la division interpalestinienne. Mais il est de l'intérêt des Palestiniens de faire des efforts très importants pour revenir revenir à un processus démocratique, c'est-à-dire des élections, et deux, à un minimum de coalition nationale.
S'il n'y a pas d'accord de paix, est-ce qu'il y a un danger pour l'État d'Israël lui-même? Parce qu'on pourrait dire, là c'est un conflit à bas bruit, la colonisation se poursuit. Plus personne ne regarde vraiment. Mais est-ce qu'à terme, l'État d'Israël sera en danger d'exister dans ce contexte?
Vous touchez, Philippe, à un des cœurs du problème pour la société israélienne. L'occupation israélienne depuis 67 n'est pas seulement préjudiciable pour les Palestiniens. On ne leur permet pas de regagner leur dignité, on ne leur permet pas d'avoir leur liberté. Ils sont sous occupation militaire. C'est un cancer à l'intérieur de la société israélienne. Le rêve sioniste, c'est de vouloir créer un centre juif, un foyer national juif. On est en train d'aller à l'encontre de ce rêve-là. Si l'extrême droite israélienne arrivera à imposer sa volonté sur les Israéliens, c'est-à-dire on va vers un État binational d'apartheid, c'est la fin du rêve sioniste. Un seul État israélo-palestinien n'est pas viable. C'est obligatoirement la guerre civile. Les deux sociétés ne sont pas prêtes aujourd'hui à vivre un seul État. Peut-être dans 50 ans, mais pas aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que cette guerre éclair, cette guerre des six jours, elle a finalement déclenché cet islamisme radical et ce recours au djihadisme?
Non, je ne pense pas que ce soit la guerre de six jours.
Indirectement.
C'est un élément qui a contribué à une montée du fondamentalisme dans le monde arabe. Je crois que la montée du fondamentalisme, du djihadisme, de l'extrémisme dans le monde arabe est due à des problèmes endémiques du monde arabo-musulman qui doit se regarder dans le miroir et faire le travail nécessaire pour que l'islamisation à outrance d'une partie des sociétés arabes et musulmanes s'arrête. Mais je ne pense pas que ce soit le conflit israélo-palestinien. Je pense, par contre, que le conflit israélo-palestinien sert de prétexte on l'a vu dans l'attentat après l'attentat de Charlie Hebdo dans l'épicerie cachère. Le terroriste prétend qu'il le faisait pour venger des enfants morts à Gaza. Donc malheureusement on voit ce conflit s'installer dans nos capitales. On met les communautés dos à dos. Quand on est pro-israélien, on est obligatoirement anti-palestinien. Et quand on est pro-palestinien, on est obligatoirement anti-israélien, ce qui est inacceptable. On peut être à la fois pro-palestinien et pro-israélien parce qu'on est pour la paix. Donc il faut que les autorités françaises aussi fassent le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de communautarisation de la société française et d'empêcher que le conflit israélo-palestinien soit importé sur les places françaises. Les pays arabes, vous parlez de la solidarité des pays arabes. Je pense que les Palestiniens sont victimes d'un viol collectif, y compris par les pays arabes, qui d'un côté, pour des raisons de politique intérieure, déclarent qu'ils sont solidaires au peuple palestinien, mais d'un autre côté, ne contribuent pas financièrement réellement à l'autorité palestinienne, ne font pas les efforts vraiment nécessaires pour que les Palestiniens retrouvent le chemin de la liberté, du progrès et du développement, et achètent pour des centaines de milliards de dollars d'armes qui ne servent à rien, alors qu'ils pourraient les investir dans le bien-être du peuple palestinien et des peuples de la région.
Christophe Fayad.
Ofer Bronstein, c'est une question un peu délicate, mais est-ce que vous faites un parallèle entre la montée de... l'isolement croissant d'Israël sur la scène internationale, son refus de négocier, son refus d'un deuxième État, etc., et la montée d'un antisémitisme réel dans les sociétés occidentales qu'on n'avait pas vu depuis des années, que ça soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche.
Oui, vous avez raison. Oui, je pense qu'il y a une parallèle à faire, mais faut faire attention.
Est-ce qu'il y a un parallèle ou est-ce qu'il y a un lien? Voilà, c'est ça.
Il y a un lien et il y a un parallèle, mais il faut pas faire d'amalgame. Il y a un antisémitisme existant, classique, qui existe dans la société française.
Oui,
il appartient à l'extrême droite française. Et il nous rappelle des heures très sombres de la France. C'est Vichy, c'est l'occupation, c'est la coopération avec les nazis, c'est la déportation d'une partie des juifs de France. Ça, c'est un antisémitisme endémique des sociétés européennes qui existe depuis très longtemps. Par contre, on voit aujourd'hui un nouvel antisémitisme naître dû à un amalgame. Beaucoup dans les banlieues qui n'ont pas l'information nécessaire, qui ne rencontrent pas des jeunes juifs en France, qui ne se battent pas ensemble, juifs et musulmans français, pour la paix, pour un changement social en France, mais aussi pour la paix et dans la région plus qu'elle les concerne, font un amalgame entre être pro-israélien et être juif. Malheureusement, certains organisations juives en France jouent l'avocat du diable, étant donné qu'ils ont tendance parfois à être automatiquement pro-israélien, automatiquement pro-gouvernement israélien, c'est interprété par certains sur le sol français comme étant une volonté de soutenir l'occupation israélienne des Palestiniens. Et donc ça crée, au lieu d'être anti-israélien ou critique par rapport au gouvernement israélien, il devient antisémite. C'est très dangereux, c'est très grave, et j'appelle les autorités françaises à faire le nécessaire pour que les communautés se rapprochent.
Quand Netanyahou dit « les Juifs ne sont plus en sécurité en France »,
c'est terrible.
Ils doivent
c'est
venir inacceptable. Dans leur pays qui est
c'est
Israël.
Inacceptable. C'est de mettre de l'huile sur le feu. C'est justement d'alimenter les arguments des antisémites. Qu'est-ce que vous disent les antisémites? Vous voyez, même ils sont, c'est pas les Français. Même le Premier ministre israélien se permet de les appeler comme si c'était ses sujets à lui, alors que c'est des Français à part entière. Le président Hollande a été offusqué. Les autorités françaises ont été profondément, ils l'ont exprimé gentiment, parce qu'on a tendance à être gentil avec le gouvernement israélien, parfois à tort à mon avis, mais à exprimer son désaccord. On ne peut pas venir sur le sol français et appeler des ressortissants français à quitter la France. C'est inacceptable. Et encore une fois, il y a de l'antisémitisme, il y a de l'homophobie, il y a de l'islamophobie, il y a des fractures dans la société française. Il faut que la France et la société française s'en occupent, mais pour faut pas faire d'amalgame. La plupart des juifs français peuvent se balader dans la rue tranquillement sans être agressés.
Enfin, mon cher, on arrive au terme de cette émission. Vous l'avez dit vous-même pendant le temps que nous avons passé ensemble. Vous êtes né en Israël, vous êtes franco-israélien, vous avez un passeport palestinien. Vous êtes quoi? Vous êtes un doux rêveur, un idiot utile ou un traître? On lit tout ça sur vous dans la presse israélienne notamment. Ou quelqu'un d'avant-garde qui préfigure la paix?
Je suis un militant pour la paix, je suis un militant pour la justice, et je suis, vous avez omis de dire, en disant que j'étais un franco-israélien, je suis un europo-israélien, moi je suis un européen convaincu. Et je suis ravi que le président Macron, le nouveau président de la France, ait fait de l'Europe un de ses enjeux majeurs. L'Europe doit peut jouer un rôle très important pour pousser les Israéliens et les Palestiniens à une paix permanente. J'espère qu'elle le fera, j'espère que ce sera sous le leadership de la France et de l'Allemagne.
Ofer Bronstein, merci d'avoir été l'invité d'International. Je précise d'ailleurs qu'à cette table viennent différents courants d'opinion, puisqu'il y a quelques semaines, c'était l'ambassadrice d'Israël en France qui répondait à nos questions. Merci d'avoir été sur ce plateau. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.
RFI, les voix du monde.
What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them who now? They left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you can be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. Ooh, now they're gonna do the same to you. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you, but you put them through now. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same to you. Yeah. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. Same, same, same.